Bien, avec votre permission, on va lancer cette journée. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France, bienvenue à vous. D'un mot, avant de passer la parole à Monsieur Roma et puis Patrick Matagne, qui est membre du bureau de l'espace Mendès France, vous dire d'un mot où vous êtes, pourquoi cette maison existe. Donc, vous êtes à l'espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche depuis de nombreuses années. Donc, c'est une association loi 1901 dont le bureau est composé d'une trentaine de scientifiques de toutes les disciplines, de tous les horizons. Nous avons quelques parrains et accompagnants de renom, puisque Edgar Morin, Yves Coppens, Hubert Reeves, Michel Brunet, Cédric Villani font partie des scientifiques qui nous aident à monter nos programmes. Donc l'espace Mendès France, c'est 110 000 personnes par an. C'est une action qui a lieu dans ces murs. Vous allez être présent dans cette maison qui est dotée de salles d'exposition, d'animation, d'ateliers, d'un planétarium qui fait une centaine de places, mais également d'un lieu d'expérimentation multimédia et numérique qui est dédié à la recherche sur les pratiques artistiques à l'ère du numérique. Un pôle qui s'appelle le lieu multiple et qui est jumelé avec des structures internationales. Donc l'espace Mendès France a pour vocation de rapprocher les sciences, les scientifiques de nos concitoyens, à un moment où les filières scientifiques sont en déshérence en France, à un moment où les métiers de sciences et de technologies ont du mal à trouver des candidats. Cette maison a aussi pour objet à la fois le débat citoyen, l'éducation aux sciences, hein, on touche pratiquement 40 000 jeunes par an, mais également toute la promotion des filières, une meilleure information sur les métiers. Ce bâtiment à Poitiers est géré par notre association et l'association gère aussi une plateforme régionale puisque l'an dernier nous sommes allés dans un peu plus de 800 communes du Poitou-Charentes et donc nous montons des programmes dans les établissements scolaires bien sûr mais en appui aussi avec les réseaux culturels et beaucoup d'étudiants M1, M2 et doctorants participent à nos actions. Donc pour vous donner quelques éléments, on a signé une centaine de contrats de travail d'étudiants et d'enseignants-chercheurs l'an dernier, donc sur des programmes. Aujourd'hui, autour de vos interrogations, vous avez la question du développement durable, de l'énergie, etc. Nous, on a monté beaucoup d'opérations depuis 10 ans. Force est de constater qu'au-delà du mot emblématique développement durable, de la notion de transition environnementale, le niveau de culture et d'appropriation sur ce thème de nos concitoyens est très faible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est l'objet de réseaux militants qui se sont appropriés ces démarches. Et je crois qu'il y a un énorme travail de vulgarisation et de diffusion des contenus. Patrick Matagne, qui est parmi nous ce matin, fait partie de ceux qui, depuis plus de 10 ans, contribuent à mieux faire percevoir à nos concitoyens des contenus, sûrement, parce qu'il y a de la science, de la technique, mais surtout les enjeux, puisque derrière toute cette affaire, il y a beaucoup de choses liées à la culture, aux usages et aux actions politiques. On l'a vu hier soir à travers le gouvernement qui a évolué sur les questions de développement durable. Voilà, donc, Monsieur Roma, je vais vous laisser la parole. Je vais vous souhaiter la bienvenue. Tout a été préparé pour que cette journée se passe bien pour vous. Anne Bonnefoy a coordonné ça à nous dans la maison. Vous aurez un déjeuner à midi et je pense que cette journée sera riche d'enseignements. Merci.
Merci beaucoup. Et merci à l'espace Mendès France et à Madame Bonnefoy qui a beaucoup travaillé sur ce projet développement durable de formation thématique. Bien, je vais parler un petit peu d'organisation hein, parce que c'est un petit peu compliqué. Il va y avoir 3 demi-journées. À chaque début de demi-journée, vous devez émarger, vous devez signer une feuille pour prouver que vous êtes bien présent, pour valider après votre formation. Donc on passera tout à l'heure, on fera passer la feuille pour que vous signiez tous en face de votre nom. Donc, d'un point de vue organisation, on s'est arrangé pour que tous ceux qui viennent en voiture, qu'ils soient de Poitiers ou qu'ils soient d'ailleurs, du fait qu'il n'y a pas de parking gratuit à proximité de l'espace Mendès France, on a donné un rendez-vous à tous ceux qui viennent en voiture sur le parking du campus. Dans un lieu, on vous a donné exactement où était ce lieu, c'est la maison des étudiants, et c'est juste en face de la cité dans laquelle ceux qui sont de l'extérieur seront hébergés. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, tous ceux qui sont en voiture sont allés sur ce parking. Il y a un bus qui les a amenés ici et il y a un bus qui les ramènera ce soir au même endroit sur le parking pour qu'ils récupèrent la voiture. Et ce bus-là amènera aussi ceux qui sont venus en train et qui sont venus à pied de la gare jusqu'ici et vont être hébergés dans la Cité des Cartes. Alors, pour ceux de la Cité des Cartes, vous avez... il n'y a qu'une seule cité, hein, vous n'êtes pas sur plusieurs cités, vous êtes tous dans la même cité, le même bâtiment, c'est le bâtiment B. Bon, anciennement B, maintenant je crois que ça s'appelle C29, je crois. C'est le bâtiment du milieu, il y a trois bâtiments, bon, vous ne pouvez pas vous tromper. La clé que vous avez ouvre évidemment votre chambre, mais il y a une porte d'entrée, je pensais qu'elle était fermée à clé, en fait elle n'est pas fermée à clé, elle est toujours ouverte, donc ne vous inquiétez pas, je crois que c'est une porte coulissante, hein. Madame Péguin y est allée, et, voilà, donc il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez rentrer ce soir. Alors, que je précise un petit peu. Trois demi-journées, une première demi-journée sur le développement durable, un repas après, présentation du développement durable en général, une demi-journée après sur transport et développement durable, et à la fin, il y a l'espace Mendès France nous a ouvert le planétarium et vous aurez une séance de planétarium avant que vous quittiez le bâtiment. Alors, une fois que la séance planétarium est terminée, le bus, toujours le même, Vitalis, va vous emmener à l'endroit où on va dîner ce soir. Cet endroit, le restaurant s'appelle la Tomate Blanche. Le bus ne vous amènera pas jusqu'à la Tomate Blanche parce que c'est un petit chemin qui descend, il ne veut pas y aller, mais il vous laissera en haut. Bon, je pense qu'il y aura des poids de vin qui indiqueront à ceux qui ne sont pas d'ici le chemin à prendre, mais il n'y a pas trop à se tromper. Il faut descendre, vers la rivière et vous avez le restaurant la Tomate Blanche après. Le repas, terminera vers 9h à peu près, j'imagine. Après, vous avez le choix. Vous avez le choix entre guillemets. Vous avez le choix de revenir au point où le bus vous a laissé et d'attendre jusqu'à minuit 15, tout seul, ou sous la pluie, pourquoi pas. Ou alors, puisque vous avez en même temps que le repas, il y a une discothèque à côté, vous pouvez aussi rentrer dans la discothèque si vous voulez vous abriter, s'il se met à pleuvoir. Faites attention quand même, c'est minuit 15. Madame Péguin, c'est bien minuit 15, hein, Oui, c'est minuit 15, donc ne soyez pas en retard, surtout ceux qui sont pas poids de vin. Le bus viendra vous prendre à minuit 15, à cet endroit-là, et vous amènera sur le parking en face de la Cité des Cartes où vous dormirez ce soir. Maintenant, s'il y en a certains qui veulent se débrouiller de leurs propres moyens, ils peuvent aussi. Hein, nous, on vous a organisé ça comme ça, et après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire exactement. Et demain matin, donc, le bus vous reprendra toujours au même endroit, là où il vous aura laissé ce soir, pour vous ramener ici et pour la troisième demi-journée qui sera sur énergie et développement durable. Voilà. Encore une fois, merci à l'Espace Mendès France qui nous a bien aidés sur cette organisation. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne formation thématique. Je vous rappelle, hein, dans l'école doctorale, il y a trois types de formations. Formation thématique, c'est un des volets de la formation. Et vous devez faire deux formations thématiques pour valider ce volet-là. Et puis après, il y a les autres formations qui sont à côté. Bien, Oui.
Donc merci à tous, c'est la deuxième journée de ce type organisée avec les écoles doctorales de Poitiers, l'Université de Poitiers. Je remercie beaucoup les directeurs de leur confiance. Donc, la dernière journée est organisée sur les nanotechnologies et on nous a demandé de monter cette journée sur le développement durable, l'énergie, les transports. Donc je tenais aussi à remercier Patrick Matagne et Philippe Monnet. Philippe Monnet n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, on va penser à lui, c'est vraiment dommage. Donc Patrick est aussi responsable scientifique de l'organisation de ces journées. J'ai fait appel à lui parce qu'on a travaillé ensemble depuis quelques années avant que le développement durable soit un concept à la mode sur le développement durable. Et on a organisé moult journées d'études et on a aussi produit des ouvrages qui sont édités aux éditions Hermann. et Patrick Matagne était le responsable scientifique de cette production. Je remercie aussi les conférenciers qui sont pour certains des personnes qui reviennent à l'espace Mendès France. Je remercie de leur confiance, Monsieur Monedière qui est arrivé hier soir, d'autres personnes qui vont arriver tout à l'heure, et puis les invités aussi de l'Université de Poitiers, Monsieur Demenet, Monsieur Saunier qui sont là. Donc je vais, Patrick, on va regarder le timing puisqu'on est un petit peu en retard, sachant qu'il paraît qu'on a une pause café, donc je vais voir avec Hubert. Donc Patrick, tu es maître de conférence à l'Université de Poitiers, UFM Poitou-Charentes. Tu es chercheur au laboratoire Ruralité, EA 2252, l'Université de Poitiers. Tu es historien des sciences, spécialiste de l'histoire de l'écologie, ainsi que de l'histoire des pratiques naturalistes. Et tu participes à une réflexion sur les enjeux du développement durable. Et tu es auteur de nombreux ouvrages, aux origines de l'écologie, comprendre l'écologie et son histoire, la naissance de l'écologie, éduquer à la biodiversité pour un développement durable 2012, et tu as dirigé plusieurs ouvrages sur le développement durable, les enjeux de développement durable, les ouvrages qu'on a édités à l'Espace Mendès France, les effets du développement durable en question, le développement durable sur le regard des sciences et de l'histoire. Donc tu as également rédigé des articles et des chapitres d'ouvrages collectifs, notamment La vie et alors, débat passionné d'hier et d'aujourd'hui, direction Jean-Jacques Cupiec, 2013. Donc nous t'écoutons parler de... Bien sûr, j'ai demandé est-ce qu'il y a une conférence introductive qui vous donne, qui vous permette d'avoir une vue d'ensemble justement de ce que c'est que ce concept. Et comme je suis responsable du pôle d'histoire des sciences depuis 20 ans bientôt, je pense que commencer par un aspect historique, même si vous n'êtes pas forcément habitué dans les écoles doctorales à ce genre d'approche est primordial pour nous. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci Patrick.
Merci. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser le micro ? Ah oui, c'est enregistré.
D'accord. Donc bonjour. Alors effectivement, mon intention pour débuter cette matinée consacrée au développement durable n'est pas de faire une conférence très longue, je vous rassure, mais plutôt d'ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion ou de dégager un certain nombre de questions ou de questionnements autour du développement durable. Et je dirais que la première question que je vais adresser, c'est directement à l'expression même développement durable, puisque on peut s'interroger sur cette figure rhétorique que beaucoup assimilent à une figure oxymorique. Hein, donc la tortue, il y a des figures oxymoriques qui sont extrêmement célèbres dans la littérature, la poésie, le théâtre. La tortue, elle se hâte avec lenteur. Comment se hâter avec lenteur? Le jeune vieillard, c'est le malade imaginaire. Alors là, je n'ai pas trouvé de figure qui puisse exprimer à la fois un jeune et un vieillard. Donc c'est effectivement oxymorique. Le soleil noir. Hein, pour prendre de Baudelaire, pour prendre quelques-unes des plus célèbres, j'aurais pu parler des fous normaux de Pierre Desproges ou encore des splendeurs invisibles d'Arthur Rimbaud. Donc effectivement, beaucoup d'observateurs ont repéré directement, alors je dirais dans la traduction française, on pourrait discuter aussi du choix qui a été fait de Sustainable Development, traduit d'abord en français par développement soutenable, et c'est finalement développement durable qui a été acté, j'allais dire admis, et plus personne ne dit en français développement soutenable, me semble-t-il, mais plutôt développement durable. Donc il y a une volonté, alors consciente ou inconsciente, ça peut se discuter derrière ce choix, et beaucoup d'observateurs, aussi bien du côté des opposants au développement durable que du côté des promoteurs du développement durable, ont immédiatement repéré qu'il s'agissait d'une figure oxymorique. Alors, les opposants, je pense à des économistes comme Serge Latouche, je pense également à Jean-Marie Haribet, ils disent, bon, effectivement, on a bien là déjà le problème posé par l'expression elle-même, c'est un gadget idéologique, disent certains, en disant effectivement, comment un développement peut-il être durable ? On a effectivement une opposition. hein, très nette entre développement et durabilité. Il n'existe aucun exemple dans la nature, si je me limite au domaine des sciences de la vie, qui est un peu mon domaine d'origine, effectivement, un système, un être vivant se développe, enfin, il naît, grandit, se développe, et c'est naissant et meurt. Enfin, rien n'est complètement durable, et donc du coup, ça pose un problème. Alors effectivement, du côté des promoteurs du développement durable, on peut dire, mais justement, c'est parce qu'il s'agit d'une figure oxymorique qu'elle attire l'attention. Effectivement, dans la littérature, la poésie, l'art, les oxymores sont là pour provoquer une émotion, une réflexion. Et donc là, effectivement, même si l'expression développement durable n'est pas durable, peut-être ne sera-t-elle pas durable, en tout cas, l'émergence, l'irruption, j'allais dire, de cette expression a eu au moins pour vertu de provoquer un débat, et je pense qu'on n'a jamais autant parlé de questions de croissance, de développement, de durabilité depuis que cette expression existe. Alors, très curieusement, là c'est beaucoup plus rare, mais certains y voient un pléonasme. Alors, vous allez dire, il faudrait savoir. Donc, si c'est oxymorique, ce n'est pas pléonastique. Mais effectivement, je pense à une géographe qui est Sylvie Brunel, qui, elle, dit, mais effectivement, développement durable, c'est un pléonasme. Tout développement se doit d'être durable. Alors, je dirais, c'est plutôt dans une vision, alors, je vais dire positive ou optimiste, en disant, effectivement, le concept de développement est à retenir et, par définition, tout modèle de développement doit être pensé, conçu, en fonction de sa durabilité. Donc, alors évidemment là, moi, mon objectif n'est pas de résoudre ce problème de l'oxymore ou du pléonasme, mais en tout cas de montrer que déjà il y a, sans se limiter évidemment à un débat rhétorique, déjà à ce niveau-là, le débat, la controverse peut s'armer. On peut commencer à partir de l'expression à discuter de ce qu'on met derrière l'expression, en tout cas dans sa traduction française. Alors, l'expression, bon, quand est-elle apparue? Alors, sous réserve d'inventaire, il semble qu'on ait pour la première fois parlé de Sustainable Development en 1980, donc dans un écrit, donc Stratégie mondiale de la conservation, donc UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, le programme des Nations unies pour l'environnement, le WWF, donc 1980. Donc voilà, le but est un développement qui soit durable. À ce jour, cette notion paraît utopique, etc. Donc, l'expression, l'histoire du développement durable, si on se limite à l'émergence de l'expression, du mot, elle débute en 1980. Alors, je vais passer très vite sur la période très récente, puisque c'est la plus connue et les sources sont extrêmement accessibles. Donc, effectivement, on peut dire que 1987, si on essaie de jalonner, donc 80, l'expression, 87... entre guillemets, de façon un peu ironique, la Bible du développement durable, donc A World Common Future, de Gro Harlem Brundtland. Donc c'est effectivement la référence en matière de développement durable qui a beaucoup inspiré les grands sommets qui ont suivi, en particulier le sommet de le premier sommet de Rio. Donc, alors, avec la définition, enfin, qui est bien plus longue que ça, mais la partie de la définition qui est la plus médiatisée et que tout le monde connaît reprend sans forcément citer la source, c'est celle-ci, bien sûr, la question des besoins et puis la problématique des générations futures. Donc ça, c'est une définition extrêmement connue que tout le monde s'approprie et que malheureusement on trouve dans des manuels de géographie de classe de 5e, par exemple, où on exige des élèves qu'ils apprennent par cœur cette définition, ce qui, moi je dis à ma fille, tu l'apprends par cœur, tu auras une bonne note, mais il y a une centaine de définitions possibles du développement durable. Enfin, c'est à la fois la force et la faiblesse, effectivement, puisqu'on a, chacun a son propre développement durable, sa propre manière, sa définition opératoire. Vous pouvez aller regarder la définition de l'OCDE, la définition de telle ou telle association, de telle institution. Il y a effectivement des approches différentes du développement durable, et bon, Voilà, ce serait un peu le développement durable made in Rio, si vous voulez, hein, qu'on a souvent représenté, enfin le modèle avec les sphères. Donc Rio 92, donc on peut dire que la question du développement durable est lancée politiquement, mais également médiatiquement à la fin des années 80, au début des années 90. Par le rapport Brundtland et puis par le sommet, le Rio 1, si vous voulez. Alors, je passe donc très vite sur cette histoire un peu institutionnelle ou politique par le biais des grands sommets. Donc, le sommet de Johannesburg 2002, évidemment, donc les sommets décennaux, hein, donc 92-2002, qui reprennent effectivement un certain nombre et définissent un certain nombre d'objectifs. Et puis, Rio plus 20, qui s'est tenu donc en juin... en juin 2012. Donc ça, c'est la partie, je dirais, historique. C'est l'histoire du développement durable, l'histoire très récente, depuis les années 80. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus là, aujourd'hui, c'est d'aller chercher un peu dans la préhistoire du développement durable, c'est-à-dire avant que l'expression n'existe, est-ce qu'on peut aller trouver, c'est assez périlleux en général, mais on va essayer de le faire quand même, est-ce qu'on peut aller aux racines du développement durable ? Alors, pour des raisons, j'allais presque dire didactiques, et c'est un petit peu artificiel évidemment, je vais aller chercher des racines économiques, des racines écologiques et puis des racines sociales, puisqu'on dit qu'effectivement le développement ne peut être durable que s'il prend en compte les contextes, conditions, facteurs, contraintes économiques, écologiques et sociales ou sociétales. Donc je vais essayer de tourner autour de ces trois sphères en faisant un petit peu au départ comme si ces trois sphères étaient indépendantes, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Et puis je terminerai, et on pourra ouvrir la discussion éventuellement, sur le développement durable aujourd'hui en prenant simplement un aspect là aussi. Alors, finalement, la question qu'on pourrait se poser, qui pourrait guider ce point sur la préhistoire du développement durable, c'est à qui appartient le développement durable ? Alors, première hypothèse de réponse, le développement durable appartient aux économistes. Alors effectivement, qui a pensé modéliser la croissance ? Alors là, je parle sous le regard de ma collègue économiste qui va sans doute, et puis également M. Monédière, qui vont sûrement me corriger tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, il va y avoir des partis pris, et puis qui sont discutables ou critiquables. Alors effectivement, le concept de croissance, je le lis ici au révérend Thomas Robert Malthus avec son principe de population. Donc effectivement, où il modélise la croissance des ressources qu'il croise avec la croissance des populations. Alors, c'est une courbe qui est bien connue, qui est, comme tous les modèles, elle est sans doute critiquable et fausse dans son... Dans sa mise en œuvre. Mais en réalité, voilà. L'idée, c'est que la croissance des populations suit une progression, que je ne me trompe pas, géométrique, et la croissance des ressources suit une progression arithmétique. Donc effectivement, il y a un point de crise. Hein, Malthus avait essayé de réunir un certain nombre de données dont il pouvait disposer à l'époque pour montrer qu'il fallait effectivement limiter la croissance de la population. Il avait modélisé pour ce qui correspondrait à la Belgique actuellement la population maximale que ce pays pourrait supporter en fonction de ses possibilités, de ses ressources, de façon à pouvoir répondre aux besoins de la population. Alors effectivement, même si je ne vais pas en dire plus, on a en face de Malthus, on a Smith, qui est lui plutôt considéré comme fondateur du libéralisme économique, qui lui n'est pas dans cette logique de limitation de la croissance ou de frein démographique, mais qui effectivement modélise, enfin qui analyse la croissance économique et va essayer de repérer quelles sont les causes de l'enrichissement de la richesse des nations. On dit souvent Malthus, c'est l'économiste pessimiste et Adam Smith, c'est l'économiste optimiste. Si on veut. Voilà, je sens que ma collègue n'est pas tout à fait d'accord. Alors, effectivement, après, donc ça, je dirais, voilà, je suis allé finalement au essayer de repérer, voilà, le concept de croissance, puisque le concept de croissance est un des concepts importants, centraux, dans la problématique de développement durable. Donc, c'est, voilà, d'où vient le concept de croissance, comment a-t-il été modélisé, quels ont été les premiers penseurs de la croissance, donc, effectivement, des économistes. Et on a... Je passe allègrement sur toute une période historique pour aller chercher maintenant le concept de développement. Parce que dans développement durable, il y a quand même développement, même si la croissance et le développement sont liés les unes aux autres, bien sûr, avec les keynésiens, donc de l'économiste britannique John Maynard Keynes, qui vont analyser la problématique de la croissance donc qui vont reprendre cette problématique de la croissance et vont, après la grande dépression consécutive à la crise économique de 1929, mettre l'accent sur l'instabilité du système capitaliste. Donc ils prônent effectivement un certain nombre de mesures, relance de la consommation, baisse des taux d'intérêt, accroissement des investissements publics cette vision va influer le modèle dit post-keynésien qui va essayer de montrer quelles seraient les conditions qui permettraient de générer un cycle de croissance assurant le maintien du niveau d'emploi et une augmentation des capacités de production, entraînant à son tour une distribution des revenus, soutenir la consommation, etc. Et donc, c'est dans cette période va émerger le fameux PIB, qui est effectivement un indicateur quantitatif, un indicateur de croissance, à la fois indicateur et élément d'alerte. Donc, effectivement, le PIB est extrêmement utilisé jusqu'à présent. Et j'y insiste, c'est un indicateur de croissance. C'est pas directement un indicateur de développement, mais c'est un indicateur quantitatif. Donc, croissance, développement. Et alors, sur le plan politique, à partir de quelle période a-t-on commencé à discuter de la problématique de développement ? Alors, il semblerait que ce discours de janvier 49 de Truman soit un petit peu pionnier par rapport à ça, puisqu'il y est question de développement, de sous-développement, j'allais dire, dans un contexte de décolonisation, de guerre froide. On a la problématique de développement et son symétrique opposé, le sous-développement, qui sont bien liés les uns qui sont bien liés entre eux, qui commencent à être développés. Et puis le corpus théorique du développement qui va être développé à partir des années 50. Bon, j'ai indiqué ici deux économistes du développement. Donc la problématique de croissance, le concept de croissance est assez récent finalement, si on dit 18e siècle. Le concept de développement, le corpus théorique qui se développe autour de développement, va effectivement être beaucoup plus récent. Et on a ici deux concepts qui sont bien sûr centraux dans le modèle de développement durable. Donc là, voilà, là il semblerait qu'effectivement le modèle de développement durable doive beaucoup aux économistes, aux travaux des économistes. Alors, évidemment, je vais décliner ma question toujours autour des sphères. Est-ce que le développement durable appartient aux naturalistes, aux protecteurs de la nature ? Alors, on pourrait dire aussi, bien sûr, vous avez bien compris que je vais répondre oui aux trois questions. Ça appartient aux économistes, aux naturalistes, aux protecteurs de la nature. Alors, en trois dates, finalement, qui me paraissent des moments importants pour montrer comment on a croisé les questions économiques avec les questions liées, les problématiques liées à la nature. Et je crois que le terme de conciliation est un terme clé également pour comprendre la question du développement durable. Donc 1923, premier congrès international pour la protection de la nature. Donc concilier la sauvegarde de la nature avec les transformations économiques qui s'imposent. Et puis donc, on ne parle pas de durabilité, mais de perpétuité ici. Les richesses dont l'exploitation prudente devrait assurer la perpétuité. Ce qui est intéressant ici, c'est le croisement. Hein, et non pas cette opposition qu'on a pu faire et qui est sans doute lié au contexte des années 60-70 avec le mouvement écolo, entre guillemets, où on a opposé la chose économique à la chose écologique. Là, on a vraiment une tentative de réfléchir à la manière de concilier ces approches-là. Alors, 48, ça c'est important, à Fontainebleau, le préambule de la constitution de l'UIPN, alors Union internationale pour la protection de la nature, qui est devenue l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, dans ce préambule de la constitution de l'UIPN, on évoque la... le risque lié à l'appauvrissement des ressources naturelles pour le maintien des conditions de vie de l'humanité. Donc on lit effectivement épuisement des ressources et qualité de vie ou conditions de vie, l'interdépendance de l'homme à l'égard de ses ressources naturelles. Alors il est intéressant de faire un lien avec la discipline écologique qui est en train de naître. Le concept d'écosystème, c'est 1935. Le concept moderne d'écosystème, c'est 1940. C'est la science des interactions qui est en train de trouver ses lettres de noblesse, j'allais dire. La discipline, la science écologique est effectivement émergente à partir des années 30, 40, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui, l'approche écosystémique de l'écologie. Donc la notion d'interdépendance, d'étroite dépendance se retrouve là. Et puis la question de la consommation, donc consommer avec ménagement, avec prudence pour assurer la prospérité et la paix. Donc on lit bien là aussi les questions économiques, les questions écologiques avec les questions sociales, enfin la paix, la qualité de vie. Et puis 68, alors on a souvent dit que cette conférence de 68 au siège de l'UNESCO à Paris, conférence de la biosphère, a vraiment formalisé l'idée de développement durable sans prononcer l'expression, sans prononcer le mot, enfin l'expression sustainable development. Donc voilà, en trois dates. Donc effectivement, on pourrait dire aussi que la sphère naturaliste ou écologico-naturaliste alimente également les discours qui vont vers l'idée d'une conciliation, d'un croisement des différentes sphères qui deviendront celles du développement durable. Alors, dernière question que j'adressais, donc à qui appartient le développement durable cette fois ? Est-ce que cela appartient finalement au social, au sociétal ? Est-ce que c'est lié à l'émergence d'une nouvelle forme de demande sociale en matière d'écologie, en matière d'environnement ? Alors, quelques publications qui ont rencontré un grand succès médiatique. Alors, Rachel Carson, 1962, Silent Spring. Donc, c'est une scientifique, Rachel Carson, qui a réuni un ensemble de données relatives à l'impact de l'usage excessif de pesticides, de produits chimiques, en particulier le DDT, et donc l'impact sur les écosystèmes, sur la santé du vivant non humain, mais également du vivant humain. Et donc, je ne développe pas ici, mais effectivement, son ouvrage a fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de controverses, jusque ça a été mis à la question du Congrès par le président Kennedy. Ça a été assez violent, il y a eu des controverses assez violentes, puisque Rachel Carson s'est évidemment opposée, confrontée au lobby chimique, dont le discours dominant était entre les insectes et nous, il faut choisir ou ce sera eux ou ce sera nous, puisque l'idée c'était que les insectes allaient détruire toutes les récoltes et effectivement nous laisser sur la paille sans mauvais jeu de mots. Donc Rachel Carson a un discours qui est plus écologiste au sens où elle dit le éradiquer n'est pas la solution. Ce qu'il faut introduire, c'est un système qui permet de réguler les populations animales et de concilier effectivement le développement humain avec le maintien des écosystèmes et des interactions, des chaînes alimentaires, etc. Donc, alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cet ouvrage a un grand succès médiatique. Il est traduit en français en 63, je crois. Il est traduit dans une trentaine de langues et c'est un best-seller, si vous voulez. Et alors, après là, c'est toujours délicat d'essayer de repérer les causes de l'émergence d'une demande sociale. Alors, effectivement, comme je suis sans doute pas armé pour le faire ou prudent, je dis effectivement, cet ouvrage, dans un contexte que je vais évoquer brièvement, va alors accompagner, provoquer, contribuer à l'émergence d'une forme de demande sociale en matière d'écologie, d'environnement, attirer l'attention des médias et du grand public sur la question des pollutions. Une autre bombe médiatique, entre guillemets, donc de Population Bomb, donc d'un Américain également, d'un biologiste, il est entomologiste, si je me souviens bien, Paul Ehrlich, qui va lui alerter les États sur l'urgence qu'il y aurait à réguler la natalité, en particulier dans les pays dans lesquels la natalité est très forte. On commence à avoir, donc c'est un ouvrage qui est publié en 68, on commence à avoir beaucoup de données sur la natalité galopante, entre guillemets, d'un certain nombre de pays. Il serait dans un contexte qu'on pourrait qualifier de néo-malthusien, les démographes néo-malthusiens, effectivement, tentent d'alerter les décideurs, les États, sur ce péril, en disant effectivement la croissance de la population est une bombe à retardement, et comme la bombe atomique, elle peut faire à long terme autant de dégâts. Alors, on est dans un contexte particulier, le contexte de la guerre du Vietnam. Alors, pourquoi je vais chercher la guerre du Vietnam ? Parce que, bon, effectivement, elle entraîne beaucoup de mouvements sociaux, pacifistes, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que dès 70, il y a un article de Nature en 70, donc avant même la fin de la guerre du Vietnam, cette guerre est interprétée comme un écocide, comme une sorte de guerre écologique, puisqu'on utilise des produits qui vont détruire durablement, là, pour le coup, un certain nombre d'écosystèmes, d'agro-écosystèmes, des mangroves, des écosystèmes côtiers. C'est-à-dire qu'on a une stratégie militaro-économique, si vous voulez, qui montre qu'on va, bien au-delà des enjeux militaires, détruire durablement un certain nombre d'écosystèmes et effectivement mettre en péril la santé humaine. Alors, toujours pour donner des éléments de contexte par rapport à cette demande sociale, à ce contexte social, bien sûr, en 72, le sommet de Stockholm sur l'environnement humain, le contexte de la publication du rapport Meadows, Halte à la croissance, qui sur la base d'une simulation informatique, donc il travaille au MIT, sur la base d'une simulation informatique, modélise l'évolution des sociétés et, je dirais, prévoit l'effondrement d'un certain nombre de systèmes économiques, écologiques, sociaux dans les années 2020, 2030. Enfin, bon. Et on peut être il faut être très prudent par rapport à ces modélisations, évidemment. Ce qui est intéressant avec les modèles, c'est qu'en général, ils sont invalidés par la réalité. Mais bon. Ils ont effectivement le halte à la croissance est un qui n'est pas une traduction très littérale de The Limits to Growth, hein, vous pouvez le noter, est devenu un slogan, effectivement, qui a rencontré un certain succès médiatique. Alors, quand on le relit aujourd'hui où on court après la croissance, on dit halte à la croissance, oui, bon. On est dans un autre contexte, bien sûr. Le contexte également de la conquête spatiale, alors pourquoi ? Puisque, effectivement, l'humanité, pour la première fois, peut regarder ce vaisseau spatial Terre, l'expression date de l'époque, le vaisseau spatial Terre, isolé dans un vide glacé. Et effectivement, ça peut. C'est une image choc qui peut effectivement marquer les consciences par rapport au fait que voilà, nous sommes tous dans ce vaisseau spatial et il va falloir y vivre ensemble et le gérer durablement. Alors, le catastrophisme qui naît un peu dans les années 60-70 de par les médias et de par un certain nombre d'événements qui ont été fort médiatisés, nous en sommes les héritiers quelque part. Alors, je suis toujours très... je dirais très très dubitatif vis-à-vis de cette vision très catastrophiste des choses, qui, à mon avis, est contre-productive par rapport au développement durable. Mais bon, on est tous les héritiers, même si on n'était pas nés à l'époque, de cette forme de catastrophisme qui a émergé dans les années 60-70, dans l'après-guerre mondiale. Alors, effectivement, succès médiatique d'un certain nombre d'événements à l'impact écologique fort, hein, le naufrage du Torrey Canyon 67, bien sûr. Voilà, un succès médiatique durable, là, puisque 40 ans après, on a toujours effectivement l'impact de la pollution liée à ce naufrage. Succès médiatique, bien sûr, également de la Mococadie 78. Hein, pour rester dans le contexte des années 60-70, un certain nombre d'alertes également avec Three Mile Island en 1979. En Pennsylvanie, bien sûr. Alors, j'arrête là simplement parce que il est un peu vain et un peu inutile de donner la liste des événements qui ont contribué à accompagner cette prise de conscience et qui ont... donc, il y a effectivement, pour se limiter à la France, ici, il y a un mouvement associatif, militant, important qui se développe, les premières radios libres qui vont médiatiser la problématique écologique, remettre en cause effectivement un modèle de développement qui s'est imposé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le monde occidental, pour faire court. Alors, donc, le développement durable, c'est effectivement une dimension sociale ou sociétale, une dimension économique, une dimension écologique. Et il y a le problème de la gouvernance, etc. J'ai donné le modèle développement durable un peu orthodoxe. Je l'ai qualifié de modèle de développement durable made in Rio. Évidemment, le développement durable évolue dans ses représentations, ses modélisations, etc. Et je voudrais juste... par rapport à ce dernier point sur le développement durable aujourd'hui, aborder deux approches qui me semblent intéressantes et qu'on peut discuter. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'approche faible, enfin la soutenabilité faible ou la durabilité faible, et puis ce qu'on pourrait appeler la soutenabilité ou la durabilité forte. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur sur faible ou fort. Hein. Ce sont des formules qui permettent peut-être d'indiquer quels sont les points saillants de ces deux approches. Alors, dans le cadre d'une soutenabilité dite faible, ben, on a un postulat qui pose finalement que le progrès technique permettra de substituer aux ressources naturelles épuisées un certain nombre de ressources artificielles manufacturées. D'une façon générale, c'est le fait que la réponse technique, technologique sera effectivement permettra de résoudre les problèmes de durabilité et le principe de substituabilité des ressources va ici s'appliquer. C'est un principe important dans le cadre de cette approche qui est finalement l'approche la plus consensuelle, la plus partagée. Et là, donc, du coup, on ne considère pas les ressources pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural, mais on peut considérer qu'une forêt est intéressante non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fait. Que fait la forêt ? Ben, elle rend des services écologiques, hein, biens et services écologiques. On peut lister les biens et services écologiques rendus par la forêt. Donc voilà ce que fait la forêt. Donc moi, si je suis un petit génie et que j'invente une machine qui rend les mêmes services que la forêt, on peut effectivement à la forêt substituer effectivement cette machine-là. Puisque si j'invente une machine qui permet de drainer les sols, rendre des données, produire du bois, enfin, etc., tous les biens et services possibles. Donc là, on est... Alors, effectivement, ça pose il y a un certain nombre de problèmes, un certain nombre de limites par rapport à la biodiversité en particulier. Les aspects qualitatifs liés aux biens et services écosystémiques, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé récemment. Mais bien sûr, un certain nombre d'observateurs, je pense à des économistes de l'environnement comme Franck Dominique Vivien ou à des spécialistes de l'éthique de l'environnement comme Raphaël Larrère, par exemple, effectivement, sont très très critique vis-à-vis de cette approche du développement durable qui s'appuie sur le principe de substituabilité. La substituabilité a un certain nombre de limites, bien sûr. Alors, l'autre approche qu'on pourrait qualifier de forte, la durabilité forte, ou qui est une conception bioéconomique, si on veut, alors effectivement, n'admet pas le principe de substituabilité et effectivement pense que le progrès technique effectivement ne peut pas suffire à remplacer éternellement les ressources naturelles. Il y a pas simplement, il y a un certain nombre de biens et de ressources qui sont aussi importantes pour ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils font, et donc d'où par rapport à la gestion de ces ressources la nécessité qu'il y a à maintenir un stock. Pas relié, voilà, avec prélèvement inférieur ou égal aux capacités naturelles de renouvellement. Bioéconomie, donc là, on pourrait aller vers la question de la décroissance soutenable, qui n'est pas très loin de cela. On pourrait relire avec profit, me semble-t-il, les propos de l'économiste roumain Georgescu Rogan sur, effectivement, qui, me semble-t-il, est un penseur important de cette approche bioéconomique. Voilà, donc, alors, j'ai trouvé effectivement une mise en image, une mise en modèle intéressante de cette durabilité faible et forte. Alors, dans une thèse de Aurélien Bouteau, avec un titre très évocateur, puisqu'il est le développement durable, penser le changement ou changer le pansement. Donc une thèse de 2005. Donc effectivement, selon lui, effectivement, la durabilité faible reviendrait simplement à changer le pansement, et puis la durabilité forte, ce serait à penser le changement. Je caricature, mais voilà. Donc dans le cas de la durabilité faible, c'est l'aspect économique qui reste prépondérant et qui va diriger l'ensemble de... on ne fera donc de l'environnement et du social que si l'économie va bien. Et puis, dans le cadre de la durabilité forte, on a une inversion, presque une révolution copernicienne, si vous voulez. C'est la sphère des activités économiques qui est incluse dans la sphère des activités humaines, elle-même incluse dans la biosphère. Donc, on a effectivement un point de vue qui est différent. Voilà, donc, merci de votre attention. Et je ne sais pas s'il y a du temps pour une ou deux questions, ou si on les laisse plutôt après, je ne sais pas. Ah bon, très bien. Ah bon, d'accord. Bon, bah alors 5 ou 10 minutes de questions. Bon. Très bien.
Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Alors, je suppose que vous... Voilà. Très bien. Non, il faut obligatoire.
Ah oui, là, on ne peut pas y couper.
Bonjour. J'aurais juste une petite remarque. Est-ce que, même pour les autres conférenciers, serait possible... En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens dont le français n'est pas la langue natale, d'expliciter les termes qui sont parfois un peu complexes, genre oxymore. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris, par exemple. Donc, est-ce que parfois, c'est possible, quand il y a des mots un peu pointus, de pouvoir les développer un petit peu sans aller jusqu'à tout détailler, mais juste sur certains points, voilà.
D'accord. Donc
c'est une journée didactique, c'est important.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, les oxymores, ce sont des figures qui sont forgées de telle sorte qu'on associe deux termes qui s'opposent ou qui se contredisent. Parce qu'effectivement, quand on dit un soleil noir, comment penser un soleil noir? La tortue, comment se hâter avec lenteur, comment être à la fois jeune et vieillard. Donc on a ici, volontairement, dans le cadre de la littérature ou de la poésie ou du théâtre, on a volontairement créé une figure qui interpelle, parce que y a contradiction, y a choc. Donc, dans le cas de développement durable, on peut dire aussi d'une certaine façon qu'il s'agit d'une figure oxymorique, puisque beaucoup d'observateurs disent, mais effectivement, un développement ne peut pas être durable. Par définition, il n'existe pas de modèle qui puisse penser un développement durable, puisqu'il y a des limites de ressources, de temps, etc. Donc, C'est un jeu rhétorique, si vous voulez. Il faut aller au-delà de ça et finalement se dire, bon, effectivement, que signifie développement durable? Comment concilier développement et durabilité? Je ne sais pas si ça, si ça répond.
Oui, bonjour Yves Ranoux.
Bonjour.
Je suis doctorant en troisième année. Moi, j'étudie en fait la finance carbone, donc les marchés financiers du carbone européen, donc le dispositif EUETS. J'avais une petite question un petit peu d'ordre, disons, à mi-chemin entre la philosophie et la politique, plutôt philosophie politique. Donc, si je me rappelle bien de mes cours de terminale, Descartes disait qu'il fallait se rendre comme maître et possesseur de la nature, à l'image de Dieu. Je voulais savoir si finalement les économistes, lorsqu'ils ont réfléchi à la notion de concept de développement durable, finalement ils se sont rendus compte que la logique cartésienne était arrivée au bout et peut-être qu'il fallait rompre avec cette tendance. Alors peut-être que je me trompe, mais ça semble quand même assez... Enfin, je sais pas, moi ça me semble... Certes, il y a un débat entre les économistes, entre les économistes, disons, plutôt pessimistes et optimistes, mais en même temps, enfin, il y a tout un plein d'événements politiques, et on se dit peut-être que on est responsable et on sent une certaine responsabilité derrière. Et moi, je trouve que ce qu'il y a d'assez peut-être différent, c'est entre les États-Unis où c'est vraiment un débat d'experts, alors que en Europe, si je prends par exemple mai 68, on voit quand même les premiers courants écologistes vraiment naître en même temps, et on voit que c'est peut-être plus par la rue, par la démonstration, par l'opinion plutôt que par le discours d'experts. Donc je voulais savoir si vous aviez, des raisons, est-ce que vous y voyez des raisons, est-ce que c'est purement factuel, je ne sais pas du tout. Et la deuxième question, en fait, c'est, je me demande si on disait, enfin j'ai toujours appris que le développement durable, la condition nécessaire, c'était la croissance. Or, il y a certains économistes, notamment en France, qui prônent la décroissance. Je voulais savoir si, inversement, on ne pourrait pas dire actuellement la décroissance comme condition nécessaire au développement durable, ou alors le développement durable comme condition nécessaire, on retourne le problème, développement durable comme condition nécessaire à la décroissance. Voilà, donc je fais référence notamment aux thèses de M. Gadré, en fait, voilà.
Patrick, est-ce que tu peux...
Oui, là, je me sens un peu démuni parce que j'ai l'impression qu'on interpelle plus les économistes, donc je les appelle à mon secours éventuellement s'il y en a dans la salle.
Les philosophes aussi.
Et puis les philosophes, effectivement. Je ne sais pas, par rapport à la place de l'expert, de l'expertise, je ne sais pas. Alors effectivement, vous évoquez les années 60-70 où il y a une demande sociale. Alors moi, j'ai l'impression qu'on a plus une demande sociale en matière d'écologie et d'environnement. Et quand on interroge quand on fait un micro-trottoir, si on veut, on dit voilà, est-ce que vous connaissez l'expression développement durable ? Évidemment, oui. Maintenant, en France, tout le monde connaît l'expression développement durable. Pour vous, le développement durable, c'est quoi ? Et la réponse qui est donnée situe en général le locuteur uniquement du côté de l'écologie et de l'environnement. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'on a, depuis un demi-siècle maintenant, une demande sociale en matière d'écologie et d'environnement et pas une demande en matière de développement durable, telle qu'on essaie un petit peu de la discuter ici, en disant, attention, il y a effectivement, c'est multidimensionnel. C'est vrai que le développement durable, c'est plus une affaire, peut-être... Pour le grand public, c'est plus une affaire de politique, hein, effectivement d'experts. C'est très technique. Ça vient du haut, hein, pour reprendre un peu cette métaphore du haut et du bas. Mais il y a une sorte de quiproquo ou de césure, c'est-à-dire que il y a une demande sociale à laquelle voudrait répondre le développement durable, et il me semble que les deux ne se rencontrent pas. Je m'aperçois que je ne suis pas du tout en train de répondre à votre question, mais ça c'est une... C'est quand on ne sait pas répondre à une question, vous savez, on répond à une autre. Mais je ne sais pas, par rapport aux économistes, votre question sur les économistes ou sur le point de vue économique, si quelqu'un veut apporter des éléments de réponse.
Merci. Donc, en tant qu'économiste, je peux ajouter quelques éléments, notamment justement par rapport à la prise en compte par les économistes des questions environnementales. Et donc, au regard de la présentation historique que tu as faite, il y a un nombre de dates clés concernant donc la prise en compte officielle de la question environnementale. Et cette prise en compte intervient essentiellement à la fin des années 60, début des années 70, c'est-à-dire au moment où le modèle économique qui a été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, basé justement sur le développement industriel, la grosse industrie, etc., donne quelques signes de faiblesse et où on se prépare à un nouveau modèle de croissance, hein, permettant donc de créer de nouvelles richesses. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu ce ralentissement de la croissance économique à la fin des années 60, qui précède l'augmentation des prix du pétrole au début des années 70, les économistes officiels, justement, se seraient jamais intéressés aux questions environnementales. Enfin, ceci pour faire bref, puisque après, dans notre intervention conjointe, c'est des points sur lesquels nous reviendrons.
Bon, on va faire la pause. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Vous voyez tous les deux tout à l'heure, Madame Boutier et Patrick Matagne. Monsieur Romain, un petit mot à vous dire avant la pause.
Oui, toujours sur l'organisation. Il y a des personnes qui s'étaient inscrites pour l'hébergement. On ne les a pas vues, donc je vais vous donner les noms et vous me dites si vous êtes là ou pas. Aquarini, non. Baudet. Bon, voilà, je vais vous rayer, pas de problème. Chardon, vous aviez demandé. Ok, mais on ne vous a pas donné de clé. Bon, ok, ben vous venez me voir après. Deliancourt. Bon. Voilà, c'était sur site internet, c'était marqué. Je ne pense pas qu'on soit trompé, mais enfin, qu'importe. Et une dernière personne, donc celles qui veulent, hein, et aussi la dernière personne, c'est Rio. Et vous avez fait une demande d'hébergement ? D'accord, donc les deux, là, vous venez me voir. Bien, pour tout le monde... Pour tout le monde, vous passez, et je vais laisser la feuille ici d'émargement, vous passez, vous signez pour bien montrer que vous étiez là ce matin. Pour ceux qui sont hébergés, tous ceux qui sont hébergés, vous ne laissez pas les clés dans la chambre quand vous partirez, vous ramenez les clés et je les récupère le lendemain matin, demain matin quand vous arriverez ici. D'accord, voilà, bonne pause. Donc tout le monde signe, hein.
La salle est fermée pendant les cours.